Mugamba.
Nzambira Samirana.
Le journal avec Benny Axelakana.
Nous sommes samedi 28 mai 2022. Vous êtes bien sur la radio Interb Agateka Kawe. C'est le moment du journal. Tout d'abord les titres. 50 à 100 000 francs burundais, c'est la contribution que les commerçants de Muyinga sont forcés de verser pour la construction du bureau provincial. Les commerçants parlent d'injustice. Le personnel de l'ONATEL ne baisse pas les bras et croit toujours au redressement de l'entreprise. Ils ont pour cela émis des propositions dans un document qu'ils ont sorti récemment. La problématique des exonérations et leurs conséquences sur le budget de l'État, c'est de cela que le mini-magazine Au cœur de la société va nous entretenir aujourd'hui. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
À Muyinga, l'administration impose aux commerçants une contribution de 50 à 100 000 francs burundais pour la construction du bureau provincial. Les commerçants crient à l'injustice et demandent l'arrêt de cette campagne de collecte forcée. Ils réclament un dialogue pour discuter des montants à payer et sur la procédure de collecte. Edi Claude Lilina Hazgwe nous en dit plus.
Cette contribution pour la construction de l'immeuble qui servira du bureau provincial est comprise entre 50 000 et 100 000 francs, comme le déclarent certains commerçants. Selon cette source, cette contribution a été fixée unilatéralement par le gouverneur de la province Muyinga, Jean-Claude Debartuanayo. Certains commerçants estiment que cette contribution dénote en soi une injustice notoire. Premièrement, affirme notre source, le gouverneur ne nous a jamais consultés pour chercher un consensus sur les montants à payer compte tenu de la pauvreté grandissante qui met à rude épreuve plusieurs familles. Secundo, ces commerçants accusent l'autorité provinciale d'avoir usé de sa position pour fixer ces montants. Tertio, cette injustice se matérialise par la fermeture des commerces pour ceux qui ne s'acquittent pas du montant demandé par les collecteurs. Aussi, les contribuables qui se sont confiés à la radio Inzamba dénoncent le forcing des Imbonerakure et aux militants du CNDD-FDD. Dans cette collecte, demande au gouverneur de province d'arrêter cette collecte et organiser une réunion de clarification et de privilégier pour la fois prochaine le dialogue source de l'entente. À ce sujet, la radio Inzamba a essayé de joindre par téléphone le gouverneur de la province de Muyinga, Jean-Claude Batwanayo, mais sans succès.
La commune de Muyinga est en train de violer littéralement la procédure de recouvrement des taxes communales en séquestrant les membres des familles qui accusent des défauts de paiement de l'impôt foncier. C'est ce que dénonce Maître Janvier Wigilimana, juriste et défenseur des droits humains. Il précise que les textes de loi prévoient clairement les procédures qui doivent être empruntées sans recourir aux violations des droits des enfants. On écoute Maître Janvier Wigilimana.
C'est une procédure qui est en train de violer les droits de l'homme en général, mais aussi les droits des enfants, parce que dans certaines situations, on a compris que des enfants avaient été arrêtés, emprisonnés à la suite des défauts de paiement des taxes communales. La loi burundaise prévoit justement des procédures qui doivent être suivies et en aucun cas des personnes qui composent une famille ne peuvent jamais être emprisonnées à la suite d'un manquement des paiements des taxes communales. Cette procédure qui a été empruntée par les autorités communales devrait cesser sur le champ parce que c'est une procédure qui n'est nulle part prévue par les textes de loi burundais. Nous interpellons donc les autorités communales de Muyinga, y compris les autorités provinciales, pour que la procédure de recouvrement des taxes communales soit respectée, mais plus particulièrement pour que les droits des citoyens soient respectés, parce qu'il est anormal, il est même étonnant que les autorités communales et oser envisager une telle procédure d'emprisonnement des membres des familles à la suite d'un retard ou d'un défaut de paiement des taxes communales. La Constitution de la République du Burundi, tout comme des textes internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi, protège les citoyens contre des emprisonnements arbitraires et prévoit toutes les garanties procédurales lorsqu'il est question de payer des dettes civiles.
Le procureur de la République de Kayanza a remis vendredi 27 tonnes de café parche au directeur général de l'Office pour le développement du café ODK. Ce café avait été saisi dans les ménages mercredi de cette semaine sur la colline Kigume en zone Ngoro de la commune Gatara. Le directeur général de l'ODK a indiqué que l'argent issu de ce café sera placé dans le trésor public. 5 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête, car la législation burundaise interdit de traiter le café chez soi. Le point avec Jean-Marie Dabashinze.
Ce café a été saisi dans cette ménage de la colline Kivume sur 10 qui avait été pointé du doigt. Il était emballé dans 396 sacs et il a été placé dans une des salles de l'Isengoro, toujours en commune Gatara. Selon le procureur de la République à Kayanza, Isaac Nibigira, une partie de ce café provient des stations de lavage, pendant qu'une autre s'est dit café dépulpé à domicile, car 3 machines servant à cette activité ont également été saisies. Toutefois, le dépultage du café à domicile est prohibé, de même que la commercialisation du café sec. C'est à cette fait que les mis. Chichahayo, gouverneur de la province de Kayanza, de même que le procureur de la République, ont pensé que ce café allait être vendu clandestinement à l'étranger, d'où la décision de le remettre officiellement ce vendredi sous la responsabilité de l'ODK a été prise par ces deux autorités. Quelques habitants de la localité interrogés, mais qui n'ont pas voulu s'exprimer sur le micro, ont précisé que le dépiltage de ce café se faisait pourtant au vie et aussi des administratifs à la base. Ils ont également signifié que certains préfèrent vendre ce café aux commerçants locaux afin de subvenir à certains de leurs besoins les plus urgents, étant donné que quand ils acheminent leur café aux stations de lavage, l'argent reçu en contrepartie est pour les dérisoires et ne les pas payé à temps. Le même jour de l'opération, 5 hommes ont été appréhendés pour des raisons d'enquête. Parmi eux, 2 dont le café a été saisi dans leur ménage, pendant que les 3 autres sont des chefs de station de lavage de la circonscription.
Inzamba.
Il est encore possible de redresser l'Office national de télécommunication, ONATEL. Pour y arriver, il faudra que l'État burundais prenne des mesures exceptionnelles pour nommer à la tête de l'entreprise des hommes dévoués, capables de travailler dans des moments exceptionnels. C'est l'une des propositions du personnel qui garde l'espoir que cette entreprise peut encore être relevée. Mais ce redressement doit également tenir compte des intérêts du personnel. Les détails avec Georges Nimenya.
Le sort de l'entreprise publique, ONATEL, dépendra de la volonté du gouvernement puisque c'est une entreprise appartenant à 100% à l'État burundais. Telle est-il faite par certains membres du personnel de l'entreprise qui considèrent Natel comme un malade agonisant qu'il faut sauver dans les meilleurs délais.
L'ONATEL est une entreprise appartenant à l'État burundais. Le gouvernement devrait prendre dans l'urgence les mesures qui s'imposent pour sauver l'entreprise. Premièrement, il faut que l'ONATEL soit doté d'une direction compétente capable d'affronter toutes les difficultés en vue de redresser la maison. Et cela devrait se faire dans très peu de temps. Je vous jure, cela s'impose puisque demain, il serait trop tard. Il faudra aussi que la nouvelle équipe soit appuyée par une commission technique très forte et qui pourra apporter sa contribution dans le redressement de l'ONATEL.
Le personnel de l'ONATEL estime que toute voie de sortie visant le redressement de cette entreprise devrait mettre en avant l'intérêt du personnel au lieu de l'accuser comme étant le premier responsable de sa faillite.
Il faut une décision du ministère de l'élevage sur la prévention et la limitation de propagation de la maladie bovine, connue sous le nom de fièvre de la vallée du Rift. L'appel est du réseau des citoyens probes, RCP. Cette maladie a été détectée il y a quelques semaines, d'abord dans les provinces du Nord, mais elle s'est propagée dans d'autres provinces. Aujourd'hui, chaque gouverneur en concertation avec la direction provinciale de l'agriculture arrête ses propres mesures. Pierre Gahungu.
La récente décision date de ce 27 mai 2022, elle est du gouverneur de Mwaro, le colonel Gaspard Gassandwe. Elle ordonne la fermeture des marchés de vaches, de chèvres et de moutons afin de prévenir la maladie dans cette province. D'autres gouverneurs ont pris de telles mesures dans les provinces où la maladie a été détectée, jusqu'à interdire la commercialisation de la viande et l'enterrement des vaches mortes des suites de cette maladie. Pour le réseau des citoyens probes, le ministère de l'élevage devrait prendre une mesure applicable dans tout le pays, comme le dit Gervais Nibigira, vice-président du RCP.
Ces décisions ne sont pas efficaces, étant donné qu'elles ne sont pas prises au niveau du ministère. Et c'est pourquoi nous demandons au ministère de prendre en main cette question pour arrêter la propagation de cette maladie en prenant des mesures nécessaires, surtout en commençant à vacciner les animaux et pour protéger ceux qui n'ont pas encore été attaqués par cette maladie. Et parce que si chaque gouvernement de province ou chaque défense provincial prenne une mesure, cette mesure n'a pas une force comme si la mesure avait été prise par le niveau le plus élevé qui est le ministère.
Pour l'instant, la maladie s'est déjà étendue dans les provinces de Kayanza, Ngozi, Kirundo au nord, à Giteka et Karusi au centre et à l'ouest dans la province de Cibitoke et Bujumbura-Mairie. Selon un communiqué de presse sorti début de cette semaine, le ministère de l'Élevage a estimé qu'au moins 100 têtes de bovins ont été emportées par cette maladie. Serge Murunziza, directeur général de l'élevage, a indiqué que le ministère est prêt à collaborer avec les techniciens qui sont sur terrain pour mener une surveillance conjointe de cette maladie.
C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine d'aujourd'hui va se pencher sur les exonérations qui sont toujours en dépassement par rapport à la prévision budgétaire au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Josine Kazé.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le montant des exonérations accordées ne cesse d'augmenter. Pourtant, le budget de l'État prévoyait le même montant au cours des 5 dernières années, soit 18 milliards de francs burundais. À titre illustratif, durant l'exercice budgétaire 2020-2021, le montant des réalisations des exonérations est de plus de 157 milliards de francs burundais par rapport au budget prévu. Cette question relative aux exonérations inquiète les experts en économie, arguant que cette situation cause d'énormes préjudices à l'État. Que faut-il donc faire pour limiter les dépassements? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 28 mai 2022. À la présentation, Josine Kazé, bienvenue. Répondant aux questions des parlementaires, lundi le 23 mai cette année, le ministre des Finances, Domitien Ndayokougayo, a indiqué qu'il est difficile de prévoir le montant des exonérations. Émile Nivasumba de la radio publique africaine a suivi la plénière son reportage.
À la commission permanente en charge des finances, le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique a répondu que les efforts étaient en train d'être consentis pour rester dans les limites des prévisions des exonérations. Bien que ces prévisions sont estimées à 18 milliards de francs dans le budget, les réalisations ont atteint plus de 157 milliards pour l'exercice 2020-2021, soit 877% des prévisions. Les dépassements étant observés au cours de toutes les années budgétaires depuis 2015, lors de la présentation du projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire exercice 2020-2021 devant l'Assemblée nationale ce lundi, le ministre Domitien Ndayokougayo a dit qu'il était difficile de limiter ces exonérations. Ici, le ministre dit, si tu refuses un projet de développement, soi-disant que la limite des exonérations a été atteinte, tu n'obtiens pas le montant d'exonération parce qu'il n'y a pas tout d'abord de source, tu n'obtiens pas non plus ce développement. C'est le même cas pour ces investisseurs qui désirent faire des grands projets dans le pays, mais qui réclament le soutien de l'État, c'est-à-dire ces exonérations prévues par la loi. Là aussi, quand tu refuses, ils vont accomplir leur projet dans un autre pays et tu seras obligé d'importer les produits de leur projet à un prix très élevé. Depuis 2015, une grande partie des exonérations a été accordée aux investissements privés pour l'exercice 2020-2021. À eux seuls, les investisseurs privés ont reçu plus de 127 milliards de francs burundais sur les plus de 157 milliards d'exonérations accordées.
Faustin Dikouman, un expert en économie, ne passe pas par quatre chemins. Il prône la suspension des exonérations et la révision de la loi relative aux taxes. Il s'exprimait au micro de nos confrères de la télévision Renaissance.
Le système d'octroi des exonérations actuellement inspire de l'obsession. C'est un système qui répugne plus d'un. On dit maintes fois qu'on accorde des exonérations pour asseoir un meilleur environnement des affaires. Si on analyse aujourd'hui la part qui va dans les exonérations liées à l'amélioration de l'environnement des affaires, ce n'est pas la part la plus importante. Par ailleurs, même parmi ces hommes d'affaires, ces investisseurs qui bénéficient des exonérations, il y a beaucoup d'hommes politiques. Vous savez qu'actuellement, les hommes politiques sont transcendants des véritables commerçants, des véritables investisseurs. Ce sont eux, des fois, qui bénéficient de ces exonérations ou les entreprises interposées. Des fois, sont inscrites sur leurs épouses, leurs enfants. Et aussi, il y a des exonérations qui sont données suite à des fonctions. On dit un ministre peut importer une voiture en général, un parlementaire, sans que ce soit payé d'impôts. Là aussi, il faut voir. On voit que ces exonérations sont en train de prendre une allure de plus en plus inquiétante. Aussi, on va constater que certains bénéficient en même temps des exonérations suite à leurs fonctions, avec des tisseries qui peuvent accompagner. Ils bénéficient des exonérations, soit disant qu'il y a un homme d'affaires, alors que peut-être c'est le même individu. Encore plus, la réglementation, les institutions. Maintenant, quand il y a de l'OBE, l'API, qui lance l'API, la DED, il y a le ministre des Finances, avec un pouvoir discrétionnaire énorme. Le ministre des Finances peut, sur son appréciation, accorder des exonérations. Quand il y a plusieurs institutions qui accordent ça, ça devient un problème. Incontrôlable. Aussi, il n'y a pas d'un rapport, il n'y a pas d'études pour vérifier le montant déjà engagé dans les exonérations si vraiment il est récupéré au niveau des investissements. On a plus de 150 milliards de dollars. Les années passées, ça pouvait arriver à plus de 200 milliards. Dans 4 à 5 ans, le Burundi perd plus de 1000 milliards de francs, environ les recettes annuelles. Alors qu'on a un endettement exagéré, environ 3000 milliards de francs.
L'Office burundais des recettes OBR classe les bénéficiaires des exonérations en 6 catégories. Ce sont notamment les investisseurs pour la première catégorie, les financements extérieurs de l'État pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie comporte les ambassades et les organisations internationales. La quatrième catégorie est constituée par les associations sans but lucratif, les églises et les coopératives. L'avant-dernière catégorie rassemble les dignitaires du pays, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, et enfin les hauts gradés de l'armée et de la police, ainsi que les membres du gouvernement. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Josine Kazé était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Et pour terminer, voici la revue de presse hebdomadaire. C'est avec vous, Alexandre Niungeko.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Inzamba. Gate Kakawe, la revue de la presse de ce samedi s'ouvre sur l'éducation. Le système de cantines scolaires participe à la diminution des abandons scolaires, écrit le journal SOS Média. À l'occasion de la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire, célébrée le 24 mai, le représentant du programme alimentaire mondial a indiqué que le taux d'abandon scolaire a sensiblement diminué grâce aux cantines scolaires. Ces dernières années, il a passé de 11% à 7%. Le taux de scolarisation, quant à lui, a augmenté de 5 à 14%. Tout cela grâce à la mise en place du système de cantines scolaires dans certaines écoles. Pour équilibrer la nourriture, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a ajouté les champignons dans l'alimentation des enfants pour augmenter les éléments nutritifs. Le journal précise aussi que le nombre d'écoliers et d'élèves nourris s'élève à 670 000. On compte nourrir très prochainement près de 2 millions d'enfants à l'école. Poursuivons cette revue avec le journal Burundi Echo, la roue burundaise exportée en République démocratique du Congo, titre le journal. Lors de la récente visite du chef de l'État congolais au Burundi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a déclaré qu'il venait s'enquérir de ce qui se fait au Burundi dans le domaine agricole. Il a visité la ferme de Bugendana en province de Gitega, la ferme de Bulinga dans la province de Bubanza et l'Institut de recherche agronomique et zootechnique, l'IRAS. Selon le journal, les relations entre le Burundi et la République démocratique du Congo dans le domaine agricole datent de longtemps. Certains Burundais qui pratiquent l'agriculture en province de Cibitoke, à l'ouest du Burundi, ont des parentés de l'autre côté de la Rusizi. Ils ont des troupeaux dans une chefferie de l'est de la RDC dirigée par un roi qui a des racines au Burundi. À la fin du 19e siècle, pendant la colonisation allemande, Avec le programme de lutte contre la maladie du sommeil, une importante main-d'œuvre était recherchée pour débroussailler les plaines du lac Tanganyika et de la vallée de la Rusizi. Aussi, poursuit ce journal, des Burundais et des Rwandais ont été mobilisés pour aller travailler dans les mines du Katanga entre les années 1920 et 1930. Terminons cette revue de la presse par un élément de sport. Pour chaque match joué et gagné, chaque joueur aura une prime de 5 millions de francs burundais, écrit le journal Iwachu. Ce lundi 23 mai, lors d'un point de presse, Alexandre Muyembe, président de la Fédération de football du Burundi, a promis un encouragement pour chaque joueur du Namba Murugamba quand se déroulera la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Selon son président, les préparatifs vont bon train et les joueurs sélectionnés s'envoleront mardi 30 mai vers l'Afrique du Sud où les Namba Murugamba croiseront le fer pour son premier match avec la formation namibienne le 4 juin. Selon toujours Muyembe, la fédération est en train de collecter des fonds pour encourager les joueurs. Et concernant les deux premiers matchs successivement contre la Namibie et contre le Cameroun, pour chaque match joué et gagné, les joueurs auront chacun une prime de 5 millions chacun. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 se déroulera en Côte d'Ivoire. Et le Burundi fait partie du groupe composé de la Namibie, du Cameroun et du Kenya. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici la fin de cette revue de la presse. Je vous souhaite de passer un agréable week-end chez vous et parmi les vôtres. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est avec vous Alexandre Niungeko que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.